Les séminaires du Collège de France.
Bienvenue pour toutes celles et tous ceux qui sont restés pour ce séminaire. Vous avez bien fait de rester parce que cette année, l'idée du séminaire, c'est justement de vous donner des compléments par rapport au cours qui ne peut pas, évidemment, quand on parle des origines, c'est sans fin. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faudrait penser. Et donc j'ai invité au fur et à mesure des collègues assyriologue, bibliste, néo-testamentaire et d'autres qui vont en fait donner leur éclairage par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laura Battini, qui est chercheuse au CNRS. On travaille dans la même UMR, donc on se connaît bien. Et je les remercie d'avoir accepté de parler de la théomachie. Donc Laura est archéologue, mais elle s'intéresse aussi à l'histoire de l'art, à la guerre, à l'architecture, à beaucoup de thèmes qui sont évidemment aussi des thèmes qui sont liés un peu à ce cours. Elle édite aussi une revue qui s'appelle H-Shark. Et elle a un blog de commentaires sur des nouveautés archéologiques et d'autres, et puis parfois aussi toutes sortes de choses. Donc vous pouvez, ça s'appelle comment le blog? Tu peux te le rappeler?
C'est à la fin, la dernière diapo, je fais la pub pour mon blog. Ça s'appelle la Société humaine de Proche-Orient.
Vous pouvez aller sur Digit Orient, vous trouvez toutes les informations sur Laura. Elle a écrit, elle vient de terminer son HDR et elle a déjà écrit des livres sur l'espace domestique en Mésopotamie, sur la Syrie et puis les DS-mères. Je ne sais pas si c'est sorti, les DS-mères.
Non, pas encore.
Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et donc, ça fera aussi un lien avec le séminaire la semaine prochaine qui sera plutôt consacré aux femmes. Donc, mais aujourd'hui, on parlera de la théomachie aux origines du monde. La théomachie comme phase cosmogonique dans la pensée mésopotamienne. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes de nouveau dans la même situation que la semaine dernière, à savoir à 18h, il y a une leçon inaugurale, donc nous ne devons pas trop tarder pour faciliter un tout petit peu la vie à Francesco, que je remercie beaucoup, parce qu'aujourd'hui les régisseurs ne chôment pas, ils chôment rarement, mais surtout le jeudi. Donc c'est pour cela, Laura à la fin, elle vous donnera son mail, et si vous avez des questions, vous pouvez la contacter directement de cette manière-là. Voilà, un grand merci encore une fois Laura d'avoir accepté de nous parler, et je te donne la parole.
Merci beaucoup Thomas, merci Hervé aussi, et merci à tous les publics d'être là pour m'écouter. Voilà, vous avez déjà vu la dernière fois ma collègue Nelly Ziegler qui vous a parlé de la Mésopotamie, des mythes des créations, notamment la Tramansis et l'Enumelish. Et vous avez aussi vu l'Égypte avant, donc je pense que là aussi vous avez dû voir cette conception unitaire et binaire aussi de la création, avec une terre et un ciel qui sont unis et puis séparés. Mais en Égypte, la terre est masculine et Djeb est masculin, et c'est la voûte céleste qui est en revanche féminin. Et en Mésopotamie aussi, en Grèce, c'est en revanche les principes féminins et la terre, et les principes masculins et les ciels. Ça, c'est intéressant de voir ces rapports entre différentes cultures pour justement voir une certaine constance dans les réponses à des questions que tous les hommes se posent et toutes les civilisations se sont posées sur leur être au monde et sur la création du monde. Aujourd'hui, donc, on va continuer sur la Mésopotamie et je vais parler d'une phase qui, disons, est un peu successive à celle dont Nelly vous a parlé, c'est-à-dire la théomachie. C'est un mot qui vient donc de la tradition grecque. Théos, les dieux, et makos, c'est la guerre, les combats. Et cette définition signifie une guerre des dieux entre eux. Ça peut prendre différents types de formes, différentes manières cette bataille peut se présenter de plusieurs manières. Soit c'est une bataille une partie des dieux contre une autre partie des dieux. Normalement, c'est l'ancienne génération contre la nouvelle. Là, c'est intéressant de voir justement la conception de l'évolution et aussi les conflits entre les générations. Et sinon, ça peut être aussi le cas d'un dieu unique, principal, qui combat contre un être qui peut être un serpent, un dragon, etc. Dans plusieurs traditions, ça peut être un monstre différent. Notons que la théomachie est présente dans plusieurs traditions aussi. Elle n'est pas seulement attestée en Mésopotamie, elle est présente, si vous avez connaissance de la Grèce, vous pensez à la titanomachie ou à la gigantomachie, et vous savez comment aussi la gigantomachie est tellement représentée en Grèce. Donc aussi, l'image que vous voyez, c'est une représentation d'époque romaine. Pourquoi je suis intéressée à cette phase de la création? Je trouve que, d'abord, c'est très intéressant de voir la violence, les thèmes de la violence, et donc la théomachie est une forme de violence, disons, suprême. Et vu que la violence est légitime entre les dieux, elle légitime aussi la violence entre les humains. Et puis aussi, pour justement voir l'évolution, voir la pensée mésopotamienne sur l'évolution. Et aussi pour voir les rapports entre les différentes cultures, que j'essaierai de faire un tout petit peu. Voilà ici, effectivement, les plans de ces cours. D'abord, j'ai présenté la théomachie dans les textes mésopotamiens, et puis dans l'iconographie, et puis aussi je tirerai quelques conclusions finales en citant aussi des traditions différentes si on a les temps. C'est aussi pour ça que les thèmes de la titanomachie m'intéressent, c'est parce qu'on a pour une fois, ce qui n'est pas souvent le cas, une représentation figurée et aussi une documentation textuelle. Ce qui est intéressant de voir est donc les différences et les similitudes entre les deux expressions. Et puis, c'est toute la question des rapports entre texte et image dont je vais juste un peu parler, mais on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. La titanomachie, c'est aussi une phase un peu angoissante pour les hommes, parce que c'est le moment dans lequel les cosmos actuels peuvent être remis en cause par justement les guerres des dieux. Et donc forcément, c'est une phase de passage seulement. La théomachie en Mésopotamie se présente surtout, elle est surtout citée par les Numailish, donc l'ouvrage qui est une des compositions les plus complètes et les plus complexes et une des dernières de la littérature mésopotamienne, et aussi dans un texte de Sennacherib. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir. Probablement, il y en a d'autres. On a une grande partie des textes qui sont découverts, mais qui ne sont pas encore traduits. Donc, il est possible qu'on trouvera d'autres informations. Et aussi, les fouilles ont repris, surtout en Mésopotamie. Donc, on pourra retrouver sûrement d'autres types de textes. Les Numailish est... Ici, vous voyez une tablette qui est conservée au British Museum. C'est la tablette numéro 3. Les Numailish, effectivement, est un poème mythologique qui est composé de 1100 vers, 1100 lignes à peu près, et il est écrit sur cette tablette. Chaque tablette donc comprend à peu près 150 vers, 150 lignes, pardon. La datation, ça pourrait être les débuts donc de l'écriture, probablement c'est sous Nabucodonosor Ier, mais les premières tablettes, les plus anciennes tablettes qu'on a, datent du 9e siècle. Elles ont été retrouvées à Shur. On a retrouvé cette composition un peu partout. On l'a retrouvée aussi naturellement dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, donc dans le nord de la Syrie. On l'a retrouvée aussi dans le sud de la Mésopotamie, à Sippar aussi, à Kish, et même à Sultantepe, donc vers en Turquie. C'est un ouvrage qui a marqué beaucoup les gens, pas seulement de son époque, mais aussi jusqu'à une dizaine de siècles plus tard. Effectivement, elle a continué à être copiée et recopiée. Et exceptionnellement, c'est le seul ouvrage pour lequel les copistes n'ont jamais changé de mot. Et même la... Toutes les tablettes sont exactement les mêmes dans toutes les copies qu'on a retrouvées. Donc, ce qui a permis aussi de restaurer presque la totalité de l'ouvrage, même s'il y a quelques cassures ici et là. Mais l'essence générale, même dans les cassures, l'essence générale est plus ou moins compris. Et je disais, cette œuvre a continué à être copiée encore après la chute de l'Empire néo-babylonien par les Perses. Et jusqu'à la dernière citation, on la retrouve avec Damasios au 5e siècle après Jésus-Christ, qui est un philosophe néoplatonicien qui en fait un résumé bien plus détaillé que celui qui avait fait Bérouse et bien plus précis, comme on verra par la suite. Cet ouvrage est aussi, comme la Tramesis et l'épopée d'Hera, un ouvrage qui est assez complexe par rapport aux autres mythes qu'on a, et ça, parce que la question fondamentale est différente, est une question plus essentielle, et qui est justement la création de l'univers, ou la Tramesis, la création aussi, les destins de l'homme. Donc, cet ouvrage a été vraiment, a marqué vraiment les esprits et a continué à être copié dans les temps. Pour, c'est, donc, la théomachie est citée, disons, deux fois dans les Numéliches, c'est-à-dire il y a deux théomachies. Même si en général on cite surtout la dernière, celle dans laquelle Marduk attaque et tue Tiamtu, mais il y a aussi une phase précédente dans laquelle Ea tue son père, tue son grand-père ou arrière-grand-père, donc Apsu. J'ai oublié de vous parler un peu de quoi s'agit-il de l'Enuma Elish. Les Numéliche, lorsqu'il en a, de l'incipit de l'ouvrage, effectivement, raconte la création des dieux, la création de l'homme et la création de l'univers, les trois au même moment, est un ouvrage qui exalte la figure de Marduk. C'est pour ça qu'on la date vers Nabucodonosor Ier, donc vers la fin des 1100 avant Jésus-Christ, parce qu'avant, Marduk, la figure de Marduk n'est pas vraiment dominante. L'ouvrage commence donc avec Apsu qui est obsédé par les bruits qui font ses enfants, sa progéniture, enfants, petits-enfants, etc. Il va voir Tiamtu, sa femme, et lui dit qu'il a pris la décision de tuer toute la progéniture. Kempt n'est pas d'accord, mais les vizirs Momon, les vizirs des Apsu, acceptent. Et donc, les plans, pourtant, est connu par la progéniture, qui essaye de se révolter. D'abord, il y a de la surprise, donc les dieux bougent dans tous les sens. Après, un peu l'effroi, tout le monde s'y fige. Et à la fin, c'est Ea, qui est décrit en termes très élogieux, qui attaque et qui tue Apsu avec la magie, en cédant de la magie. Ensuite, Tiamtu n'est pas d'accord de la situation. Elle est aussi influencée par d'autres dieux et elle commence à méditer de lutter contre les autres dieux, sa progéniture. Et c'est à ce moment-là qu'elle crée des monstres terribles et après, il y a la guerre, il y a la lutte, surtout entre Marduk et Tiamtu, et Marduk gagne la victoire. Comme ça, ils établissent la terre, les ciels, ils établissent aussi les temps, la division du temps, ils donnent aux dieux leurs occupations. Et donc, à la fin, ils reçoivent les 50 noms. Et donner un nom à Mésopotamie est quelque chose d'essentiel, ce n'est pas anodin, signifie vraiment que la personne est ses noms. Il y a une sorte de... la chose nommée existe, donc donner ses 50 noms, c'est donner des qualités incroyables à cette divinité. Donc la Thiomachie, je vous disais, elle est... la première thiomachie, elle est attestée dans la première tablette. On va lire. Apsu, ayant ouvert sa bouche, haussa la voix et dit à Tiamtu : leur conduite m'est désagréable. Les jours, je ne repose pas. La nuit, je ne dors pas. Je veux les réduire à rien, abolir leur activité afin de rétablir les silences et pour que nous puissions dormir. Entendant cela, Tiamtu, courroucé, vociféra contre son époux. Pourquoi nous-mêmes détruirions-nous ce que nous avons fait? Leur conduite était fort désagréable. Patientons avec bienveillance. Donc, ensuite, Mumu, le vizir d'Apsu, est d'accord avec son maître. Probablement, c'est ici une allusion à un texte littéraire d'époque médio-babylonienne connu comme les dialogues du pessimiste, dans lesquels effectivement les maîtres prennent une décision et son esclave dit les félicite, puis les maîtres prennent la décision contraire, l'esclave les félicite, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi ici une allusion littéraire. Donc la progéniture d'Apsu et de Tiamtu viennent à savoir les plans d'Apsu et les dieux ne savent pas quoi faire et c'est Ea qui commence à intervenir. Je lis du texte. Supérieurement intelligent, expérimenté, subtil, Ea, qui comprend tout, agença un projet contre Apsu. Ayant récité contre lui son charme le plus fort, il est mis au repos. Le sommeil envahit Apsu, qui dormit béatement. Quand il eut endormi Apsu, qui fut envahi de sommeil, et quand Mumu, le vizir, lui aussi fut trop hébété pour se révolter, Ea détacha les bandeaux frontaux d'Apsu et lui ôta sa couronne. Il confisqua son éclat surnaturel et s'en revêtit lui-même. L'éclat est le signe de la divinité par excellence. Puis, ayant terrassé Apsu, il les mit à mort et enferma Mumu. Il établit alors sa demeure sur Apsu. Une fois qu'il a immobilisé et terrassé ses malveillants et remporté son triomphe sur ses adversaires et mis ses appartements sur Apsu, il se reposa dans les plus grands calmes. Il appela ses palais Apsu et y mit les salles de cérémonie. Là, il établit sa chambre nuptiale où, avec Damkina, son épouse, siégea en majesté. Dans ces sanctuaires au destin, cette chapelle au sort fut procréée les plus intelligents, les sages des dieux, les seigneurs. Au milieu de l'Apsu, Marduk fut mis au monde. Marduk, donc vous voyez déjà comment les termes sont élogieux pour définir Ea, supérieurement intelligent, expérimenté, subtil, qu'il comprend tout. Et aussi, tout de suite après, il y a toute une série de descriptions des Marduk, donc j'ai mis quelques-unes, pas toutes. Là aussi, Marduk est encore plus doué que son père. Marduk était rempli d'une vitalité formidable. Sa nature était débordante. Son regard fulgurant. Il était homme fait de naissance, en pleine force dès l'origine. En les voyant, Anu, son grand-père, se réjouissait et s'éclairait et avait le corps plein d'aise. Donc la première théomachie est un assassinat, pas vraiment une lutte d'Ea contre son grand-père. Vraiment, une théomachie, on peut l'appeler la suivante, celle qui est décrite dans la tablette 4, mais qui est déjà préannoncée depuis la tablette 1. Donc, Marduk s'amuse avec les quatre vents que son grand-père lui a donnés et avec la tempête. Cela engendre des bruits et de nouveau Tiamtu est dérangé. Cela troubla Tiamtu. Donc je reprends le texte. Ainsi troublé, Tiamtu, nuit et jour, s'agitait et ses enfants divins s'agitaient. Donc là aussi, ils comparaissent de nouveau d'autres enfants divins qui sont pas ceux d'Ea et Marduk. Ayant donc machiné du mal dans leur esprit, eux-mêmes s'adressèrent à Tiamtu, leur mère. Lorsqu'on a mis à mort ton époux, Apsu, tu ne l'as pas assisté, tu es restée muette. Et maintenant, à nous ayant produit ces quatre vents terribles, ton intérieur est grandement troublé et nous ne dormons plus. De nouveau, cette idée que le sommeil ne vient pas et que ça dérange et ça donne la justification. Ah oui, pardon. J'ai oublié. Ça donne la justification donc de penser au pire et de penser à la bataille et à tuer les gens. Apsu, ton époux, n'est plus en toi, ni Mumu qui fut enchaîné. Tu restes donc seul. N'es-tu pas notre mère et te voici agité en grand trouble. Et nous, qui ne reposons pas, nous ne nous aimons donc plus. Ôte-nous ces jougs sans relâche pour que nous dormions. Mets-toi debout contre eux, tire vengeance d'eau, réduis-les à néant, fais-les des fantômes. Lorsque Tiamtu entendit ces paroles, elle fut d'accord. Puisque vous-même l'avez décidé ensemble, fabriquons des tempêtes. Or, d'autres dieux étaient venus et avaient conçu du mal contre les dieux leur progéniture. Dressés en cercle autour des Tiamtu, furibonds, complotant sans relâche, nuit et jour, s'époussant au combat, trépignant, enragé, ils tirent un conseil pour machiner la guerre. La mère abîme, Tiamtu, qui avait tout formé, s'accumula des armes irrésistibles. Elle mit au monde des dragons géants aux dents pointu et au croc impitoyable, donc elle emplit les corps des vénins en guise de sang. Elle créa des monstres féroces qu'elle revêtit d'épouvante. Elle créa encore des hydres, des dragons formidables, des monstres marins, des lions colossaux, des molosses enragés, des hommes scorpions, des monstres agressifs, des hommes poissons, des bisons gigantesques. Tous brandissaient des armes impitoyables. Ils n'avaient pas peur au combat, ils étaient irrésistibles. Donc, vous voyez dans cette deuxième partie l'accumulation des termes négatifs, furibond, complotant sans relâche, les monstres féroces, impitoyables, enragés, agressifs, irrésistibles. Donc, la description des armes dont se dote Tiantou est une description qui n'est pas conforme à la réalité, disons. Elle se dote des monstres qui l'accompagnent, plusieurs types différents. En revanche, on verra par la suite, Marduk, lui, il se dotera d'armes plus normales. Donc, dans cette alternance aussi des types d'armes, il y a un aspect, un jugement négatif qui est fait des Tiantou. Naturellement, tous ces monstres qu'elle a créés sont armés, mais fait redouter les pires aux dieux à la jeune génération des dieux, commandée par Ea. Et donc, tous les dieux refusent d'aller combattre. C'est seulement Marduk qui se propose, mais qui, en échange, veut être reconnu par les conseils des dieux comme un roi. Et Marduk se prépare comme ça à la bataille. Il commence à prendre des armes qui sont traditionnelles pour l'époque. Donc, il se dote d'un chariot qui est tiré par 4 chevaux. Les noms de ces chevaux est aussi indicatif quand même de la puissance du dieu. Un s'appelle l'impitoyable, l'autre les tueurs, un autre court vite et l'autre les volants. Mais c'est quand même dans la tactique des guerres de l'époque. Il a aussi un carquois, donc un arc, et une masse d'armes. La masse d'armes, on la verra dans les sceaux, c'est aussi une arme typique et on en a trouvé à toutes les époques. Mais il se dote aussi d'armes assez spéciales, comme ils sont les filets et aussi les 4 vents et la tempête. Et enfin, Marduk s'approche des Tiantou. Et il commence à discuter avec elle, il la fait enrager, et plutôt que l'armée des Tiantou attaque Marduk, c'est Marduk et Tiantou qui commencent un combat singulier, donc c'est un combat individuel. Je lis, Tiantou et Marduk, les sages des dieux, s'emmêlèrent à l'empoignade et se joignirent au corps à corps. Mais Marduk, ayant déployé son filet, enveloppa Tiantou. Puis lâcha contre elle vent mauvais. Et lorsque Tiantou eut ouvert la bouche pour l'avaler, il engouffra vent mauvais pour l'empêcher de fermer ses lèvres. Ainsi, tous les vents en furie lui remplirent la panse, si bien que son corps fut gonflé et sa gueule large ouverte. Alors Marduk lança sa flèche et lui déchira la panse. Il lui trancha les corps par les milieux et lui ouvrit les ventres. Ainsi triompha-t-il d'elle, l'exterminant. Puis jeta à terre son cadavre et s'y dressa dessus. Donc là, c'est les piétinements de l'ennemi, même déjà mort. C'est une tradition iconographique classique en Mésopotamie qui commence depuis les 3e millénaire jusqu'au 1er millénaire à l'époque néo-syrienne. Lorsque Marduk mit à mort Tiantou, ses troupes se disloquèrent. Et les dieux, alliés, effrayés et tremblants, rebroussèrent les chemins et décampèrent pour sauver la vie. Mais ils étaient encerclés de toutes parts, sans possibilité de s'échapper. Marduk les encercla, donc, et brisa leurs armes. Jetés au filet, immobilisés au piège, pleins de gémissements, ils subirent le châtiment de Marduk et furent détenus en prison. Les 11 créatures diaboliques que Tiantou avait créées, il leur mit des coordonnées et leur enchaîna les bras. Là aussi, les coordonnées, la coordonnée est un motif iconographique qui se trouve assez fréquemment en Mésopotamie. Et en dépit de leur bellicosité, il les foula aux pieds. Enfin, Kingu, qui avait été appelé à les combattre, il les terrassa et en fit un dieu mort. Ces récits appellent plusieurs ouvrages qui sont connus au moins depuis le troisième millénaire. Ici, c'est un stèle des Sargons d'Akkad, dans lequel on voit les filets qui contient les ennemis. À côté, vous avez la stèle des vautours du troisième millénaire, un peu plus tardif, un peu plus ancienne que la stèle des Sargons. Donc, elle est datée à peu près du 2500 avant Jésus-Christ. Et là aussi, on voit les filets qui est tenu par les dieux avec les ennemis dedans. Aussi, les combats individuels dans lesquels Marduk et Tiamtou se trouvent confrontés est un thème classique dans l'iconographie. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. J'ai mis juste quelques exemples ici. Par exemple, à l'époque acadienne, c'est la stèle des Rimouches. Et dans les sceaux aussi, on voit souvent ces motifs des d'un combat individuel, comme on va le voir par la suite. L'autre motif, les piétinements de l'ennemi, est aussi représenté sur toute une série de documents, des monuments, et on les trouve, c'est un motif pour indiquer la victoire, mais aussi pour réduire l'ennemi à rien. On les trouve sur la stèle des Naramsim, ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez ici en bas. Voilà. Et puis on les trouve sur beaucoup des monuments qui ont été sculptés dans les roches à la frontière dans les montagnes, directement sur les montagnes, et qui probablement marquait la frontière à ne pas passer, justement pour ne pas incourir dans des guerres. Et on trouve ces motifs jusqu'à l'époque sassanide. Donc il est très difficile de dater ces reliefs rupestres, mais certains datent de l'époque de la fin du troisième, début du deuxième millénaire. Et aussi, tout à nous, ici, voilà, vous avez un sceau dans lequel la divinité terrasse et piétine ses ennemis. Donc c'est vraiment un motif très caractéristique. Je vous avais parlé des Damachus, les philosophes néoplatoniciens d'Athènes. Au 5e siècle, il écrit vers 480 après Jésus-Christ, des apories et leurs solutions concernant les premiers principes. Et donc, il faut penser que Damachus, il vit 15 siècles après la première écriture des Numéliches. Et ça, c'est juste pour vous démontrer combien cet ouvrage a eu un impact important. Damachus, il écrit « Entre les barbares, les Babyloniens semblent n'avoir dix mots d'un principe unique de l'univers. Il en suppose deux, Taute, Tiantou, et Apason, Apsu, faisant de ces derniers l'époux de celle-là, qu'ils appellent la mère des dieux. Deux étaient nés un enfant unique, Moumis. Ici, ça serait les Moumous, c'est les vizirs d'Apsu, mais bon. Que j'imagine avoir représenté le monde intelligible. Issus des mêmes parents, une autre génération avait suivi Daché et Dachos, puis une troisième, Kisaré et Assaros, qui donne naissance au trio Anos, Ilinos et Aos, donc Anu, Enlil et Ea. Aos et Doché, Damkina, mirent au monde un fils appelé Bel, donc Marduk, et c'est lui qui fut le démiurge. Donc vous voyez comment cette œuvre a vraiment eu beaucoup de succès et a été souvenue jusqu'à 15 siècles plus tard. L'autre texte qui parle d'une théomachie est le texte de Sennacherib, mais il n'est pas très... il est très connu, mais on ne le cite pas souvent lorsqu'on parle des Théomachies. c'est la description qu'il fait de la porte du temple du Nouvel An à Assur. Donc ces textes, désolé, j'ai pris la seule traduction que j'avais sous la main, mais que j'avais disponible à. Mais c'est une ancienne version. Qu'est-ce qu'il dit ? Assur est sur un char. Donc les Sennacherib dit qu'il veut construire ses temples, et la porte de ses temples, il la décore avec des bandes des bronzes, comme celles qui ont été retrouvées par exemple à Ingourenlil des Salmanassar III, ou bien celles qui ont été retrouvées un peu dans toutes les capitales néo-syriennes. Donc c'était une tradition, mais malheureusement, vu que les bronzes sont facilement recyclables, peu des choses en bronze nous sont arrivées. Donc il décrit dans ses textes une théomachie dans laquelle Assur, dans ce cas Assur prend la place des Marduk, c'est le chef du panthéon pour le nord de la Syrie, donc dans le sud c'est Marduk, dans le nord c'est Assur. Assur est sur un chariot, là de nouveau ça fait penser au chariot des Marduk. Il a aussi son arc, comme un Marduk, mais à la différence de l'Enumailish, Assur n'est pas seul, mais il est accompagné de plusieurs divinités. Notamment sur son char, il y a Amuru, qui est le dieu de l'orage, qui tient les rênes du char. Puis il y a aussi Shamash et A qui sont à pied et qui conduisent une multitude de divinités qui sont représentées normalement sur cette porte, mais voilà, la porte n'a pas été retrouvée. Et ils vont vers Tiamtu qui est représenté avec ses monstres, donc son armée des créatures, des dragons, des monstres. Donc ce qui est intéressant dans ces textes, et que par rapport à la version de l'Enumailish, les combats n'est plus un combat individuel, mais un combat collectif. C'est la génération récente des dieux qui combat contre la génération ancienne. Les textes sont aussi très intéressants parce que les rois aiment souligner l'habileté artistique avec laquelle il a conçu et réalisé cet ouvrage. C'est un topos littéraire aussi assez fréquent, surtout sous les Sargonides. Et il indique donc comment le bronze est brillant, l'habileté artistique personnelle, les normes qu'il a respectées et selon les vouloirs des dieux qu'il a réalisé cet ouvrage. Malheureusement, la porte n'est pas retrouvée, mais l'indication qu'il nous fournit est intéressante pour ce que nous allons voir maintenant. Et c'est justement les sceaux acadiens. Donc, Akkad, c'est les premiers empires territoriaux de la Mésopotamie, Mésopotamie réunifiée, vers 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 2150 à peu près. Ici, désolé pour la qualité des images, mais voilà, c'est pas excellent. J'ai mis seulement 39 des 70 sceaux acadiens qui représentent cette bataille divine. Comme vous pouvez voir, les dieux qui sont marqués par la couronne, la tiara corne, se combattent les uns les autres et parfois ils sont accompagnés d'autres motifs. Pour aller vous montrer mieux et plus clairement, vous avez ici des batailles divines dans lesquelles il y a plusieurs batailles. En bas, c'est une bataille des deux, ce sont des combats individuels entre deux groupes des dieux. Les sceaux 25-305. Anon, les sceaux 81-94, en revanche, c'est trois batailles. Et puis, il y a aussi des combats individuels, ici, dans ces sceaux, et aussi en bas, dans cet autre sceau. Quand le combat est individuel, quand il y a un seul combat, alors il y a d'autres thèmes qui commencent à apparaître. Ici, des personnages, par exemple, ou bien un offrand avec une offrande dans les bras. La signification des sceaux, donc dans ces cas, quand il y a plusieurs compositions, quand les combats divins n'est pas le seul élément, a une autre signification. C'est toujours un combat divin, mais l'interprétation du sceau change. Par exemple, ici, vous avez juste des dieux qui combattent entre eux. Ici, en revanche, il y a des divinités qui assistent à l'assassinat d'un des dieux, mais qui n'interviennent pas directement. Et c'est assez bizarre. Ici, de nouveau, et en bas aussi, il y a même trois scènes. Une scène qui on dit des présentations, mais ce n'est pas des présentations, donc disons d'adoration. Une scène dans laquelle un héros combat un monstre, un taureau. Et une autre scène dans laquelle il y a un combat des dieux. Voilà, ici, d'autres cas. Il y a plusieurs divinités, combats différents. Mais j'ai choisi de m'intéresser seulement aux sceaux qui représentent les batailles des dieux seulement. Parce que ces sceaux représentent effectivement, sont un élément intéressant. Lorsque les sceaux effectivement représentent plusieurs thèmes, il faut les comprendre tous ensemble. Et donc, il n'y a pas ici le temps pour vous exposer toutes les significations des autres sceaux. Donc, il y a une vingtaine de sceaux seulement, sur les 70 qui représentent des batailles, qui ne représentent que des batailles entre les dieux. Ce qui fait un 28%, donc un peu moins d'un tiers. Voilà. Ici, à travers l'analyse de ces deux sceaux, j'essaie de vous montrer comment ces sceaux avaient été pensés de manière vraiment très soignée et comment la construction de la scène s'est faite. On voit donc dans ces deux sceaux qui ont été retrouvés dans les cimetières royales d'Ur à l'époque acadienne, deux groupes de combats. À gauche, il y a un dieu qui se trouve sur une montagne et qu'on peut identifier avec un vaincu. Et dans l'autre sceau aussi, un dieu qui est sur une montagne et qui lui aussi est vaincu. Et à droite, dans les deux sceaux, on a une autre bataille entre deux divinités qui sont debout. On peut interpréter la présence, on peut interpréter les dieux qui sont en train de gagner et les dieux qui sont en train de perdre par la position des corps, la gestualité et aussi les lignes et les formes géométriques avec lesquelles les figures sont construites. Ici, par exemple, les gestes des mains baissés. Ici aussi, les gestes des mains baissés. De nouveau, dans ces sceaux, l'autre dieu avec les mains baissées. Et ici, une main baissée et une autre surélevée, mais celle qui est surélevée, elle est empoignée par l'autre dieu. Donc, tous ces personnages sont des dieux qui sont en train de perdre. En revanche, les autres, qui sont en général tout droit, sont les dieux les vainqueurs. Les sceaux sont construits, les figures s'insèrent dans des sortes de rectangles et donc la scène est plutôt bien construite, comme le démontrent aussi ces formes géométriques dans lesquelles chaque figure est construite, mais aussi dans lesquelles l'ensemble des figures peut être inséré et les lignes qui indiquent les lignes perpendiculaires, les lignes droites qui indiquent justement la tension. Toutes ces constructions, donc, avec les triangles ou les pentagones, donnent une dimension des tensions à la bataille, tandis que les carrés, les figures qui sont dans les rectangles sont plutôt des moments de pause. Et puis, les lignes droites des personnages s'interrompent une seule fois dans les deux sauts, et c'est la figure du roi qui se trouve effectivement assis sur ce qu'on devrait être interprété avec une montagne. Les imbrications en Mésopotamie, ça signifie la montagne. Et comme vous voyez, cette ligne est arrondie en bas et droite en haut. Dans les sauts 9310, en revanche, il y a une autre rupture de la ligne droite par une ligne perpendiculaire qui indique, qui est la prolongation de la barbe du dieu qui est tirée par les dieux vainqueurs. Voilà, ici. Donc les sujets, la manière de construire les figures et toutes ces lignes ensemble démontrent que les sauts étaient pensés avant d'être exécutés. On pense probable que l'argile, qu'il y avait des esquisses sur l'argile. On a trouvé effectivement quelques esquisses pour d'autres œuvres, mais probablement aussi les graveurs des sceaux utilisaient ces moyens. Vous devez penser que les sceaux sont des petits cylindres qui font 2,5-3 cm de hauteur et les diamètres est à peu près 1,5, disons, en moyenne. Il y en a aussi des plus gros ou des plus fins, mais voilà, disons, ça c'est les dimensions moyennes. Donc, essayez de graver à l'envers, parce que les sceaux est gravé à l'envers pour que quand il est déroulé, il apparaisse à l'endroit. Sur 3 cm ou 2 cm d'auteur, c'est vraiment difficile. Et cela montre toute l'habileté de ces artistes, comme par exemple ces sceaux magnifiques qui donc il fait 2,7 cm de hauteur. Et regardez comment l'attention et la représentation du corps des dieux montrent vraiment la bravure de ces graveurs. Ici, la représentation, je la trouve magnifique, non seulement par les styles qui une exécution vraiment parfaite, mais aussi par la manière dans laquelle les sceaux a été pensé. Les sceaux a été pensé effectivement avec au centre l'inscription, parce que si vous mettez un autre centre, j'ai essayé, mais non, les figures auraient les pieds ou les pieds coupés, donc ce n'est pas possible. Et cette stèle, comme les deux sceaux avant, elle a deux combats, mais ici les dieux sur la montagne est à droite et non plus à gauche. Et à gauche, les dieux vaincus est lui aussi assis. Donc, par rapport au sceau que je vous ai montré avant, ici, le combat est encore plus dramatique parce que les deux vaincus sont clairement lisibles, mais par leur position inférieure. Effectivement, les dieux, donc, vainqueurs, ils sont à la limite du sceau et ils encadrent la scène. Et les dieux vaincus, en revanche, sont à côté de l'inscription et tournent les dos à l'inscription. De nouveau, on trouve ces motifs terribles du dieu qui a la barbe tirée par les dieux vainqueurs. Et de nouveau, la position des bras surélevés et même de la jambe ici surélevée indique la victoire, indique les dieux qui est en train de gagner l'autre. Et de nouveau, les mains qui sont relâchées, les paumes ouvertes vers l'ennemi. C'est un geste probablement pour demander merci. Et les jambes aussi de ces dieux sont complètement relâchées, comme ses bras, il est épuisé, il est à l'agonie. L'autre dieu, il est moins à l'agonie, mais il est lui aussi, il est en train d'être piétiné, même si c'est seulement sa cuisse, mais ses yeux et sa, il est, disons, même son corps est inférieur au corps debout des deux dieux qui sont en train de gagner. Donc ici, de nouveau, les lignes. La seule chose intéressante, c'est que les yeux des deux dieux qui gagnent sont à la même hauteur et les dieux vaincus sont soit en dessous de cette ligne, soit au-dessus. Et de nouveau aussi, on retrouve, comme dans les sauts avant, une manière de construction de la scène très savante dans laquelle les vides sont là pour souligner des éléments importants. Et dans les centres de ces vides, ce qui se marque, ce qui se voit tout de suite, sont justement les masses d'armes et les bras de l'ennemi. J'essayais de trouver des comparaisons de ces sceaux avec d'autres. Il y en a plusieurs qui pourraient être des candidats. Donc il y a un dieu là sur la montagne, ici. Il y a aussi un autre dieu sur la montagne ici, qui est lui aussi terrassé, mais dans les deux cas, ce sont deux personnes, ce n'est pas un combat entre deux individus seulement, un combat individuel. L'autre sceau est construit de la même manière, avec deux divinités principales qui encadrent la scène, mais il manque l'inscription. Alors pour moi, ce qui est le plus semblable à ces sceaux du British Museum et les sceaux qu'on a vus tout à l'heure d'Ur, les 9310, qui avaient été mal déroulés. Ce n'est pas comme dans la publication, mais c'est plutôt de cette manière. Au centre, aussi, une inscription qu'on ne voit pas trop. À gauche, donc, on retrouve les dieux sur la montagne, lui aussi en train de se faire tirer la barbe et d'être à l'agonie, et à droite, un combat entre deux divinités. Ici, ce qui change est juste la position, disons, des divinités, du groupe des divinités qui combattent à gauche. Les deux sceaux sont intéressants parce qu'ils ont une inscription. Les premiers est l'inscription dit Epirmupi, le fort, Midu est ton serviteur. Lorsque quelqu'un dit d'être serviteur d'un roi, cela est la formule pour indiquer un fonctionnaire. Et la qualité d'exécution de ces sceaux fait penser qu'effectivement, Midu devait être l'une des figures les plus importantes des Epirmupi. Epirmupi est un roi vassal, un roi des lames, vassal des Rimush et Manishtusu, c'est-à-dire des deux rois acadiens. Et donc, aussi, l'autre sceau, en revanche, est dit seulement les sceaux d'Urnidaba. Mais ici aussi, vu malgré que les sceaux est assez abîmé, comme vous pouvez voir ici. Ici aussi, la manière de construire la scène et de se référer à la même iconologie fait penser que Urnidaba aussi était un fonctionnaire très important. Alors, tous les sceaux qu'on a vus avant, c'est-à-dire ici, qui semblent, il y a une douzaine de sceaux qui rassemblent à ces deux derniers, sont probablement, j'ai fait cette hypothèse, des sceaux des fonctionnaires qui étaient moins importants que Medo et Urnidaba et qui avaient donc juste la possibilité de copier l'iconographie mais sans avoir la possibilité de mettre leur nom. pourquoi il y a tellement de combats à cette époque. La dynastie acadienne est une dynastie qui a fait la guerre longtemps, tout le temps, et attribuer donc aux divinités en combat, légitimiser aussi les guerres de la dynastie. Et accessoirement, pourquoi des fonctionnaires auraient choisi ces motifs? Je pense qu'on peut lire les sceaux d'une manière à plusieurs niveaux de lecture. En premier niveau, on pourrait dire que ces sceaux représentent donc un combat mythologique. En deuxième niveau, on pourrait penser que les fonctionnaires qui possédaient ces sceaux qui sont utilisés, parce qu'on a trouvé des bulles et des tablettes dans lesquelles on a déroulé ces sceaux, les fonctionnaires devaient trouver une manière de légitimer l'autorité et les guerres des rois acadiens. Et puis, un dernier niveau de lecture, on peut penser, de manière un peu provocante, que les rois ont imposé ce type d'iconographie à leurs fonctionnaires aussi pour les mettre en garde de ne pas se révolter. Alors, qu'est-ce qui, pour arriver en essayant de voir comment ces sceaux peuvent avoir un rapport avec les Noumaliches ou la description de la porte des Sennachérib. Il y a des similitudes avec la porte des Sennachérib parce que les combats sont plusieurs divinités. Tandis que dans Marduk, les combats sont individuels. Mais c'est le type d'ouvrage, probablement, qui voulait que Marduk soit seulement isolé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les dieux ici sont nus. La nudité fait penser que ces dieux sont les dieux d'une époque de la création et donc d'une phase de la théomachie dans laquelle justement leur nudité rappelle celle aussi des héros mythiques. Et en revanche, dans tous les autres sceaux, les dieux sont habillés. Donc l'effet d'être nus, probablement, sont les dieux de cette bataille originaire, dès laquelle après est dérivé les cosmos dans lesquels les Mésopotamiens vivaient. Mais effectivement, et en plus, on a aussi dans quelques sceaux la représentation des créatures d'hommes taureaux ou d'autres créatures qui sont en train de combattre, qui pourraient faire penser à l'armée des Tiamtu. Donc, il n'y a pas une correspondance exacte entre texte et image. Et en plus, il faut souligner l'effet que les sceaux datent du 3e millénaire, 2300 disons, et les textes, les Noumaliches, datent au mieux des 1100 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est légitime d'utiliser un texte beaucoup plus récent pour essayer d'expliquer des sceaux aussi anciens? Ce qui est intéressant, c'est aussi penser à la possibilité d'une tradition orale. Si vous lisez effectivement les Noumaliches, il y a des tas de passages qui rappellent les techniques mnémoniques qu'on retrouve aussi chez Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire des morceaux qui se répètent dans les textes et qui, dans la tradition orale, selon les experts, sert à faire reposer la tête de l'aide qui est en train de réciter l'ouvrage pour après penser, au même moment, penser à la suite, à ce qu'il va dire ensuite. Et donc, je pense que même si les Noumaliches a été écrit seulement, a été fixé par écrit à l'extrême fin du deuxième millénaire, il y avait des mythes qui circulaient sur cette lutte entre les divinités, comment aussi les textes des Sennachérib nous démontrent. Donc, ici, je vous montre juste deux éléments, comment les résultats de la bataille, les dieux qui se font manger par les vautours, là aussi, ça signifie que les dieux sont morts ou en train de mourir, mais les seuls sceaux dans lesquels on représente la mort d'un dieu est celui-ci. Voilà, je passe ici, je n'ai pas le temps. Voilà. Ici, c'est la seule image mésopotamienne dans laquelle les rois, les dieux sont représentés morts. Et ça, c'est une mort réelle qu'on peut voir. Ici aussi, les constructions très, très habiles du sceau. Les sceaux sont aussi tellement bien choisis que la partie noire, les veines noires de la pierre sont utilisées pour représenter la divinité morte et les dieux qui l'a tué. Et les parties, en revanche, avec les veines beige et blanche, en revanche, sont pour l'autre dessin. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les Numa-Elish aussi rappellent un peu les mythes, rappellent aussi un des caractères typiques du roi mésopotamien est construit avec cette idée, celui du roi guerrier, et cette idée que la divinité doit être une divinité guerrière se retrouve un peu dans la Bible, dans laquelle vous avez effectivement, par exemple, l'Éternel est un vaillant guerrier, etc., etc. Et les seuls cas dans la Bible dans lesquels on pourrait retrouver à l'exemple d'une théomachie est l'Apocalypse. Voilà, quelques vers dans lesquels l'archange Michel chasse Satan et les anges. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, même les dieux de la Bible, en étant influencés probablement par les Numa-Elish, il devient à être conforme à l'idéal du roi bon, c'était un mésopotamien bon, donc les rois guerriers. Donc, je vous remercie de votre attention. Et voilà, ici, il y a les blogs et mon adresse mail au cas où vous avez envie de poser des questions.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.